BPM, élections municipales 2020.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, les élections municipales auront lieu. C'est Emmanuel Macron qui l'a décidé ainsi hier. Elles auront lieu le 15 et le 22 mars prochain. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales jusqu'à ce soir. Les candidats pour les villes de Limay, Mantes-la-Ville sont déjà venus répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Mantes-la-Jolie et nous accueillons ce matin Marc Jamet de la liste Vivre Mieux à Mantes-la-Jolie. Marc Jamet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu accompagner ce matin
d'Élodie Brochat.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Marc Jamet, vous êtes né le 13 février 59 à Paris dans le 14e. Vous adhérez
Dans le 19e.
Dans le 19e, voilà, autant pour moi. Donc, dans le 19e, vous adhérez.
C'est pas loin.
Non, c'est pas très loin. Vous adhérez donc au Parti communiste en 1978. Après des études de droit, vous êtes chargé de mission au cabinet du maire de Mantes-la-Jolie de 83 à 91. C'est bien ça ?
C'est ça.
En 1985, vous êtes élu secrétaire de la section Mantes-la-Jolie du Parti communiste, puis élu au comité départemental des Yvelines, puis au bureau fédéral des Yvelines. Vous gravissez les échelons en 1991 et jusqu'en 95. Vous êtes rédacteur en chef et journaliste accrédité au journal Yvelines Dimanche, supplément yvelinois de l'Humanité Dimanche. De 95 à 2001, vous êtes collaborateur au Conseil national du Parti communiste. En 2002, vous êtes conseiller municipal à Mantes-la-Jolie en remplacement de Perrine De Teuf, c'est ça, démissionnaire. En 2004, vous êtes candidat à l'élection cantonale de Mantes-la-Jolie. Après le décès de M. Schwab, vous êtes à nouveau candidat en 2009 suite à l'invalidation de Pierre Bédier. Puis en 2013, pour le retour de Pierre Bédier. En 2008, puis en 2014, vous êtes candidat déjà à cette élection au municipal de Mantes-la-Jolie. Et en 2020, vous vous représentez à nouveau devant les Mantaises et les Mantais. Vous conduisez la liste Vivre Mieux à Mantes-la-Jolie, soutenue par le Parti communiste et le Parti ouvrier indépendant et démocratique. Première question, Marc Jamet. Pourquoi avez-vous décidé de vous représenter à cette élection ?
Je crois que je pouvais être encore utile aux Mantais. Je crois que ça résume bien.
Ça résume bien. Alors comment
ça résume pas mal. C'est l'idée là. L'historique. C'est une liste qui a été lancée maintenant depuis fin septembre, début octobre, je dirais. Dans un premier temps, on a commencé à contacter, mais sur la base d'activités préalables, notamment avec des militants de la Croix-Ferrée qu'on retrouve quand même. Je crois qu'on a 6 candidats dans le quartier. C'est pas un hasard et c'est pas de l'instrumentalisation, c'est aussi la reconnaissance du travail qu'on a pu faire avec eux, notamment pour s'opposer, mais je crois qu'on va en reparler plus tard. Et puis bon, tous les contacts qu'on a pu avoir, et l'idée c'était de monter une liste citoyenne de gauche, autour de, disons aux gens, voilà, moi je me prépare à être candidat, si vous le souhaitez, on le fait, avec, c'est pas nier le rôle des partis politiques, parce qu'il y en a deux qui soutiennent en toute liberté, mais c'est pas une liste de, comment dire, avec des coups de tampon, quoi. Soutenu par un tel et un tel, on se met d'accord, on échange les candidats, etc. Ça s'est fait différemment, avec des gens qui souhaitaient, et des militants souvent, qui souhaitaient changer la situation à Mantes-la-Jolie et faire sauter un peu cette chape de plomb. C'est pour ça qu'en dehors des partis d'ailleurs qui soutiennent, vous trouverez notamment Élodie Brochat, puisque sur cette liste, sur 43, je crois qu'il y a 21 sans étiquette, ça, c'est des déclarations sur les CERFA des candidats, 19 qui se déclarent plus proches du Parti communiste et 3 plus proches du POID. Dans ces candidats qui se déclarent sans étiquette, il y a des anciens socialistes, je dirais, comme Élodie, comme d'autres, qui souhaitent tout simplement faire valoir des idées de gauche et, je vous redis, faire sauter cette chape de plomb qui pèse sur la ville maintenant depuis 25 ans, le social est en berne, etc.
Alors, j'ai deux questions. La première, vous êtes assez proche de lutte ouvrière.
Non.
Vous êtes de gauche tous les deux. Gauche, très gauche tous les deux.
Non, lutte ouvrière n'a pas une seule fois le mot gauche vérifié sur son site.
Ah non, vous voyez, je l'ai là.
Oui.
Monsieur Gounod était notre invité hier.
Oui, quand ils en ont besoin, ils le mettent. Mais regardez l'organisation, je ne sais plus, communiste internationale. Je ne suis pas à gauche, tout simplement. C'est l'État qui les a situés à gauche. D'ailleurs, quand je vois les pressions qu'on a eues sur l'ensemble des listes, on voit bien à qui ils servent.
Alors, votre réaction, justement, pour la liste qui n'a pas pu être déposée ? par En Marche. Vous avez une réaction par rapport à ça?
Pour le demander à eux.
Bon, on leur a demandé.
Oui,
non, vous êtes candidat, dire, vous. Eux ne sont pas, plus.
Non, je connais les pressions qu'ont pu être faites sur le dépôt des listes. Nous, ce que je peux dire, qu'on a eu aussi des pressions, des tentatives d'infiltration et des infiltrations à une ou deux unités qu'on a repérées. On n'a pas déposé les SERFA parce que c'est aussi qu'on en avait plus. Donc on a déposé. Il faut savoir que la liste n'est pas faite différemment. C'est ce que la dernière fois, il y a longtemps maintenant, c'est le mois de décembre, je crois, qu'on s'était vu. C'était sur la conception de comment on crée un ensemble.
Oui, c'était sur les listes.
C'est pas pour rien que j'avais un baxé. C'est assez... voilà, soit vous faites un tel sont membres de la liste, c'est-à-dire qu'on fait un appel général, soit on dit, bah, y a une définition, c'est-à-dire des valeurs de gauche, qu'est-ce qu'on veut faire. Et je sais que j'ai passé, moi, beaucoup de temps à rencontrer les candidats, c'est-à-dire qu'on avait une liste unie, soudée, qu'on a pu déposer dans de bonnes conditions, malgré ce que pouvait dire le maire, pour me refuser le débat public à la télévision une heure avant, en me disant que je n'allais pas déposer, j'avais déposé depuis 48 heures.
Allez, on va passer à votre programme. L'une de vos priorités, c'est la gratuité de la cantine pour les enfants scolarisés au premier degré. Pourquoi cette mesure?
Bah, parce que je crois aussi là que ça correspond à un besoin. Vous avez notamment des chiffres, c'est pour moi qui les donne, hein. C'est notamment la CNAF, sur Mantes-la-Jolie. La CNAF, c'est la Caisse Nationale d'Allocations Familiales. Le nombre de monter en dessous du seuil de pauvreté, je ne sais pas si vous savez, mais c'est 43%. Si vous montez aux enfants, eux, c'est encore plus, c'est 60% sur l'ensemble de la ville. Et donc, l'idée, c'était d'établir un droit pour chaque enfant scolarisé dans la ville, de pouvoir, si les parents le souhaitent, bien sûr, avoir un repas équilibré et gratuit par journée de scolarité. C'est pas si cher que ça, hein. Ça revient actuellement, ce que les parents payent, hein, c'est 600 000 euros. Hein. On propose pas de le faire tout de suite, parce qu'il faut être sérieux, parce que si vous voulez faire la cantine gratuite, bah, faut des locaux. Il faut pas dire aux enfants qui arrivent, du coup, on fait deux tours à la place d'un, vous mangez sur le pouce, etc. Ça va pas. Mais quels que soient les revenus des parents, si c'est un droit, comme vous marchez sur un trottoir, on paye des impôts qui sont pas les mêmes suivant nos revenus, on a tous droit à, pour les enfants, un repas gratuit et équilibré par jour. Ça veut dire qu'on va mettre en place toute une série de choses. Alors, je vous parlais des locaux. À mon avis, et on l'a mis dans le programme, c'est reprendre la délégation de services publics en régie municipale.
Mais vous voulez faire une régie pour les cantines?
Bien sûr, c'est ce qui existait avant. D'autant plus qu'on peut la faire avec l'hôpital qui est aussi en régie. On peut la faire avec la mairie de Limay, si M. Rouleau est réélu, ce que je souhaite, puisque j'appelle à voter pour lui, où la cantine est en régie. Et ça permet, effectivement, là c'est déjà un peu sur les rails, en tout cas avec Limay, d'avoir une autocapacité suffisante pour pouvoir fournir les repas. Ça permet aussi, si vous voulez mettre du bio de bonne qualité, etc., c'est la mairie qui gère, hein, c'est autre chose, c'est plus Sodexo, Elior, etc., qui vont faire à bas prix.
Voilà. Alors, on va passer à une autre de vos priorités dans votre programme, c'est le domaine de la santé. On connaît le problème, hein, désertification médicale dans le Mantois et un petit peu partout en France. Vous proposez un centre médical de santé. Oui. Aujourd'hui, pour vous, quelle est la situation à Mantes-la-Jolie sur le domaine de la santé? Il y a assez de médecins, il n'y en a pas assez. Votre point de vue?
Ah ben, il n'y en a pas assez. Ça, c'est malheureusement, c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des Mantais. Et il y en aura de moins en moins si on laisse faire. Parce que là, je ne sais plus combien on en est, mais c'est 20-30% de médecins qui vont partir en retraite à un moment ou à un autre. Ce qui a été mis en place par le maire actuel, moi je polémique pas, dès l'instant c'est les besoins des... Enfin, ça peut correspondre à des besoins des Mantais, c'est une maison de santé financée plus ou moins par le conseil départemental, rue de Lorraine, vous savez, au bout là.
Oui.
Ceci dit, ça va pas au bout et ça ne va pas. Parce que c'est toujours de la médecine libérale, en fait on leur offre un secrétariat et...
Ça se fait beaucoup ça.
Oui, ça se fait beaucoup, mais moi je demande à voir les résultats, parce que les médecins libéraux, il n'y en a pas plus qu'avant. Vous la regroupez dans un lieu, Mantes-la-Ville, ils ont essayé avec beaucoup de communication avec le maire FN, appuyé par le Foulon, qui maintenant change de liste. Enfin bon, voilà, tout ça c'est beaucoup de communication, mais comment on répond réellement aux besoins des Mantais? Alors nous on a essayé de réfléchir un peu, bon, maison de santé on garde, hein, le conseil départemental après tout, il paye un secrétariat, c'est très bien, c'est toujours ça de moins payé. Par contre, il y a des initiatives qui se mènent, notamment la région centre. La région Centre, par exemple, elle vient d'embaucher, ou elle est en train d'embaucher 150 médecins. C'est-à-dire que c'est la région qui paye les médecins. Les médecins deviennent salariés. Alors, on a regardé un petit peu, parce qu'ils nous disent, bon, c'est pas si cher que ça. J'ai regardé de, approfondi. J'ai commencé à contacter une série de médecins dans la région qui pourraient jouer ce rôle. Voilà, l'idée, c'est de salarier des médecins. On commencerait par 5, c'est en dessous des besoins, je suis tout à fait d'accord, c'est moins de 100 000 euros pour la ville. Hein.
D'accord.
Contrairement à ce qu'on peut penser, un médecin par an, c'est 18 000 euros, ça coûterait à la ville. Alors comment on fait dans cette affaire? C'est, je ne sais pas si vous savez, mais dans les internats actuellement, ceux qui sortent, c'est 80% de femmes.
D'accord.
80%, c'est énorme. Ils n'ont pas le même projet de vie que les médecins qu'on connaît actuellement qui partent en retraite.
Oui.
Elles veulent, il y a un projet de vie aussi familial, différent, etc. Ce qui n'est pas plus mal que ça d'ailleurs. Et donc elles souhaiteraient plus être embauchées. Donc l'idée, c'est qu'on ait la démarche d'aller vers l'internat en disant, mais nous, on est prêt à vous embaucher. Alors il faut un médecin référent.
Oui.
Commencer un peu à chercher. Donc bon, on verra, après il faut qu'on prenne la mairie, hein, mais on verra effectivement pour développer ça. Médecin référent qui, lui, va constituer son équipe. Alors, à la fois, aller rechercher à l'internat, parce que ça lui donne des compétences. Il a les compétences pour pouvoir le faire, au-delà, et puis de regarder les besoins. Alors, les besoins, on connaît un peu, hein, le bucco-dentaire, etc. Et puis, au fur et à mesure, on fait monter, monter en puissance ce centre municipal de santé, qui n'est donc pas une maison de santé, puisque là, vous auriez des médecins salariés, et l'idée, c'est que la ville... En fait, c'est des consultations gratuites. C'est-à-dire que la ville va payer ce qu'il y a en plus du remboursement sécu et du remboursement mutuel. Ça fait, je vous dis, à peu près 18 000 euros par médecin et par an. Bon, faut regarder un peu. Mais enfin, c'est de cet ordre-là. C'est un millième du budget pour 5 médecins. Comparé avec la passerelle, hein, qui marche pas en hiver. 10 millions d'euros de fonds publics. C'est un choix après. C'est un choix. Comment on oriente nos dépenses? Ben moi, plutôt qu'une passerelle qui marche pas en hiver et qui nous coûte 10 millions, 100 000 euros pour 5 médecins, ça fait 100 000 euros pour 5 médecins sur le financement, c'est tout simple. On a décidé, si on était élu, de réduire le nombre de maires adjoints de 12 à 10 et diminuer les indemnités de 30%. Ça fait 100 000 euros à l'année. Ben moi, je préfère 5 médecins que des élus qui, actuellement, parce que ça sera pas le cas, même s'ils gagnent, même s'ils touchent moins d'indemnité, qui se contentent d'aller signer une fois par semaine un truc et qui gagnent 2000 euros par mois, ça va pas.
Alors, troisième point fort de votre programme, l'emploi, vous vous engagez à créer, alors, selon votre programme, il est là, 1000 emplois durant tout le mandat. Comment on crée 1000 emplois? Alors déjà, la première question, quand j'ai lu votre proposition, j'ai demandé à mon collègue journaliste, j'ai dit, mais ils vont embaucher à la mairie 1000 emplois ou comment
non,
ça se passe?
Non, pas qu'à la, non, pas la mairie, c'est dans un premier temps, c'est regarder les départs en retraite. La mairie, par exemple, soit on continue à descendre le nombre d'agents municipaux, qui du coup ne répondent plus aux besoins des Mantais, donc là c'est tout simple, dans les prochaines années, c'est 135
départs
en retraite qu'il faut remplacer. Après, on a regardé surtout ce qu'était défense du service public. Par exemple, stationnement payant sur la mairie, si on passe en régie, on regagne 500 000 euros de recettes qu'on peut affecter ailleurs. Les médecins, la cantine gratuite. Et,
donc déjà, le stationnement, pour vous, à Mantes-la-Jolie, vous voulez le repasser en régie également?
Oui, parce tout que, à fait. La compétence, en gros, vous avez la GEPSO qui sont sur les parkings déficitaires. Et le maire, dernièrement, a dit, bon ben voilà, il y a la compétence et du coup, on va s'aligner sur les autres. C'est toujours Indigo qui gère. Ben non, Indigo qui gère, c'est 1 million de recettes sur le stationnement payant. Et se débrouille pour ne jamais rien verser à la mairie, à quelques milliers d'euros. C'est-à-dire que vous avez dans le contrat, que j'ai encore regardé l'autre fois, un plancher qui monte un peu chaque année. Hein, mais à partir d'une certaine somme, Indigo doit reverser un pourcentage à la mairie. Là, 3 000 euros près, sur 1 million d'euros, il ne reverse rien. Donc, la Sautrema, c'était 50% auparavant. Prenez 50%, c'est 500 000 euros qui doivent être reversés à la mairie. Donc, on se prive depuis qu'on est passé de la Sautrema à Indigo. 500 000 euros, ils nous disent c'est des sommes exorbitantes, la cantine, etc. La cantine, c'est 600 000, on se prive de 500 000 euros. Pourquoi? Et les autres 500 000 euros, normalement, ça fait fonctionner les parkings. Donc, on est capable... On a les compétences nécessaires en mairie pour que ça revienne en régie. Et si ça revient en régie, bien évidemment, on est tenu, pour ceux qui le veulent, de reprendre ceux qui bossaient à Indigo.
Oui.
Et s'ils ne le souhaitent pas, ça veut dire qu'on va embaucher. Donc, il y a déjà des emplois qui vont être faits. Après, c'est aussi la bagarre sur les services publics. L'hôpital, 300 suppressions d'emplois. J'en parle parce que le coronavirus, moi je veux bien qu'on... Oui, il est plus capable de répondre actuellement. Dernièrement, il était plus capable de répondre pour les maladies des enfants. On se reprend une épidémie, mais moi je veux bien qu'il y ait l'Union nationale, l'Union sacrée, hein. Mais au bout d'un moment, il faut poser des questions aussi de notre hôpital qui répond réellement aux besoins. Alors, il y a le centre municipal de santé, c'est pas uniquement son rôle. Parce que c'est pas à la mairie de payer quand même pour des... Mais en même temps, ça va aussi alléger les urgences, donc on va faire notre travail. Mais il faut aussi que l'hôpital soit financé. Et l'hôpital financé, ça veut dire pourquoi y a des dysfonctionnements, des violences quelquefois à l'hôpital. C'est parce qu'il n'y a plus assez de personnel qui souffre. Et qui finit par partir de l'hôpital aussi.
Alors moi j'ai une question, monsieur Jamais.
300 emplois.
En tant que maire, on peut faire quoi sur les emplois d'un hôpital?
Vous savez qui est la présidente du comité de surveillance quand même.
Non, mais allez-y, moi je vous pose la question.
Voilà, Cécile Dumoulin. C'est Cécile Dumoulin, elle est désignée par qui? Par le conseil, bah, elle se présente à lui-même, enfin, comme elle est un peu partout que sa famille, c'est le conseil municipal qui l'a désignée. Le parking payant, par exemple, alors c'est pas les... Parking payant, c'est passé une voie après. On a deux délégués de Mantes-la-Jolie, l'autre, je sais même plus son nom, parce qu'on y a pas de compte rendu, il y a rien, ils ont voté sur le parking payant. Elle continue à justifier tout, c'est-à-dire qu'on une mairie vis-à-vis d'un hôpital... Il y a aussi un rôle qu'on dirait politique au vrai sens du terme. C'est-à-dire que notre hôpital, il faut réclamer les moyens. En ce moment, les médecins partent tellement ils sont déçus. Ils n'en peuvent plus des conditions de travail. Les infirmières, pareil. Les aides-soignantes, ils sont payés avec des élastiques. C'est pas possible que ça continue comme ça. L'autre élément, je termine là,
oui, allez-y.
C'est les entreprises privées. Les entreprises privées, l'idée de monter un service municipal de l'emploi, c'est de dire, eh ben voilà, nous, on va aller voir les entreprises privées, alors je pense notamment aux grosses, mais pas forcément, mais pas uniquement. On a Flin, on a, Dunlop, on n'aura pas le temps d'y revenir, mais pareil, il faut monter un projet industriel, etc. Mais Flin ou d'autres grosses entreprises, Peugeot, et où il y a beaucoup de salariés à Mantes-la-Jolie, c'est d'aller les voir, et puis de dire, enfin, un peu partout, il y a plus de départ en retraite non compensé. En échange, nous, on va fournir des formations. C'est-à-dire que il faut que vous nous informiez des départs en retraite. Et nous, on fera des formations qualifiantes pour pouvoir embaucher des gens, qui veulent des jeunes notamment, qui vont remplacer les départs en retraite. C'est un ensemble, c'est-à-dire un peu donnant-donnant, mais avec des valeurs et un sens. Et ça, quand on dit 1000 emplois, c'est minimum. On verra à la fin du mandat, mais vous verrez qu'il y en aura plus si on arrive à le mettre en place.
Dernier sujet, il nous reste 2 minutes 30, le logement.
Je vais passer la parole à Elodie parce que elle n'a jamais parlé.
Alors, le logement, que proposez-vous sur votre liste?
Déjà, en fait, il y a un réel problème, une réelle difficulté, c'est l'état des logements. Excusez-moi. L'état des logements et aussi les conditions pour accéder à un logement. On voit bien les inégalités qui existent sur le territoire. Il faut attendre... plus de 5-6 ans pour avoir un logement et souvent pas toujours de très bonne qualité. Et en plus, souvent, on va avoir affaire à des personnes qui sont en difficulté sociale et aussi financière et qui se retrouvent en difficulté pour payer un logement en plus où ils ne se sentent pas bien. Donc nous, c'est tout ça qu'on veut remettre dans la boucle, c'est-à-dire du sens, un équilibre de vie et pour ça, on a plusieurs engagements, notamment l'encadrement des loyers, qu'on demande aux propriétaires privés de s'engager pour ne pas faire des loyers trop élevés. Et nous aussi, on s'engage envers eux, parce que c'est pas toujours facile d'être propriétaire et d'accorder sa confiance avec son logement. Donc c'était de dire, si vous encadrez vos loyers, nous on s'engage aussi à vous protéger en cas d'impayé des loyers. Ça, c'est par exemple une mesure forte que notre liste propose.
Alors, le logement, vous parlez de logement un peu dégradé, c'est vrai que il y a eu une charte qui a été monsieur Jamais au conseil municipal pour vérifier maintenant que les logements soient bien aux normes au centre-ville, hein, il me semble. Il y a eu une délibération qui a été votée.
Alors, ça ne concerne que les nouveaux logements mis en location et c'est en fait un questionnaire. Donc c'est pareil, j'ai voté pour en disant que ça n'allait pas assez loin. Moi, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait une visite en collaboration avec la Caisse d'allocation familiale, c'est quand même elle qui délivre l'APL, pour vérifier que tous les logements, c'est-à-dire qu'on remonte sur tous les logements en location, dans tous les quartiers de propriétaires privés qu'effectivement ils correspondent aux normes de manière générale. Je dis pas que tous les propriétaires privés sont des voleurs, bien au contraire, la grande majorité, ils ont même beaucoup de difficultés quelquefois, mais il y a quelques marchands de sommeil ou des propriétaires indélicats qui en profitent. Par exemple, vous allez trouver au centre-ville un logement à 500 € par mois. Les gens rentrent dedans, ils s'aperçoivent pas qu'il n'y a pas beaucoup de charges d'ailleurs qui sont jamais vérifiées, mais qu'ils ont du chauffage électrique avec un logement qui est une véritable passoire. Ils en ont pour 2 000-3 000 € d'électricité en hiver,
ouais.
Donc ils peuvent plus payer. Donc
comme vous parlez de logement, je vais rebondir. Hein. Il y a eu l'ANRU 1 ouais. au Val-Fouret, et là il va bientôt y avoir l'ANRU 2.
Sauf si on est élu.
Il n'y aura pas d'ANRU 2 si vous êtes élu.
Bah, en tout cas, on arrêtera la procédure parce que c'est scandaleux. On détruit 400 dans le quartier du Val-Fouré, la moitié du quartier du Val-Fouré, on détruit 400 logements sociaux, on reconstruit, si on y arrive, 800 logements privés, excusez-moi.
Donc ouais.
On est en train de vouloir changer la population avec notamment des commerçants. Je passais beaucoup de temps à aller les voir dernièrement, 40 commerçants qu'on a fait un par un, en disant, vous savez pas ce qu'il y a derrière, il dit vous concertez, mais derrière il y a un dossier privé. Et c'est à partir de cette année, expropriation, expropriation, expropriation. S'il est élu, il vous met dehors. Et il vous met dehors avec le couteau sous la gorge, parce qu'il va vous dire, voilà, je vous rachète votre commerce, tel prix, mais en gros, si vous voulez pas, moi j'ai des procédures d'expropriation avec une déclaration d'utilité publique dans l'année, demander avec un dossier qui est déjà déposé, déjà accepté. Donc je crois qu'il faut, là, comme à la Croix-Ferrée, enfin c'est autre chose, et sur les rénovations, etc., arrêter pour reprendre la concertation et faire des travaux. Ils se moquent de nous, évidemment. Ils nous ont dit la tour Clément Ader, les gens ils veulent partir, mais il n'y a pas de chauffage en plein hiver, il y a des rats, des cafards, etc. Ils ont laissé pourrir la situation. Qui c'est qui était président d'Yvelines Essonne ? Monsieur Cognet, remplacé maintenant par Monsieur Bédier, qui ne répondent pas. Ce que veulent les locataires, qui laissent pourrir leur patrimoine, en attendant qu'avec la rénovation, on leur donne, sur les fonds publics, 10 ans de loyer cash pour la rénovation. Ça ne changera rien. Et on continue cette espèce d'épuration sociale qui veulent remplacer en gros les pauvres par des riches. Moi, je crois qu'un maire, une municipalité de gauche doit protéger ses habitants les plus fragiles, de la cantine gratuite, etc. Parce que c'est ça qui fait du lien. Tout simplement. Je voulais juste rajouter une petite chose.
Oui, alors, vraiment, allez-y.
Allez, mais vraiment, quelques secondes, comment on fait pour créer du logement social, notamment là où il n'y en a pas ? Je pense au centre-ville. Parce que la droite dit n'importe quoi, on va construire des tours. Ceux qui construisent, c'est eux. Moi, je ne propose pas ça. Et, y compris les réhabilitations sans augmentation de prix, la mairie a un outil formidable. Ben, après, c'est pareil, c'est des choix. Par exemple, on va dire que sur des bâtiments existants, au centre-ville, on achète, je prends un exemple comme ça, on va acheter 4, 5 ou 3, 4 logements sur 10 ou 15. La société HLM nous dit, on va dire, vous achetez, ben, c'est trop cher, ouais. Le foncier, etc. Nous, on a un outil qui s'appelle une subvention pour surcharge foncière. En disant, ben voilà, nous, on vous donne une subvention pour pouvoir l'acheter et vous faites un loyer social. C'est-à-dire, dans les logements, on n'en construit pas d'autres, on les change de statut, mais ça permet à chaque montée, où qu'il habite, dans quelque quartier qu'il soit, qu'il puisse se présenter ou demander un logement dans l'un des 3 quartiers de la ville. On pense que c'est ça qui fera du lien social.
Marc Jamais, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Elodie Brochard.
C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités.
Cette émission sera diffusée à midi et 18h. À 8h30, nous recevrons le maire sortant Raphaël Cognet de la liste Montuni. Excellente journée à l'écoute de BPM.
Merci BPM, beaucoup. Élection municipale 2020.